continuons à vivre cette communion avec le Seigneur en laissant le Seigneur nous parler, en laissant le Saint-Esprit parler à travers cette parole qu'il a inspirée, qu'il nous a laissée. Et ce soir, nous allons revenir dans le passage qu'on a lu déjà mercredi soir dans la réunion de prière. Donc, Philippiens, chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 20. Il commence par un commandement que j'espère on met tous en pratique ce soir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce soir donc, on va continuer sur le thème qu'on a pu voir ensemble les deux semaines avant les vacances. On avait vu donc l'importance de se mettre en route dans la vie chrétienne. L'importance, si on veut être disciple, de commencer, de faire ce pas, de mettre sa confiance en Jésus, d'accepter ce que Jésus nous dit et de se lancer en acceptant la vie chrétienne en Jésus-Christ. Mais on a vu que donc, une fois qu'on a reconnu Jésus comme le chemin qui va nous conduire au Seigneur, on a vu l'importance de faire cette route tout en gardant en vue notre destination. Et on a vu que selon Dieu, notre destination dans la vie chrétienne, c'est de paraître devant le Seigneur en tant qu'Église sainte et irréprochable. Et que le fait de se rappeler de cela tout au long de notre vie va nous aider à reconnaître les directions que le Seigneur nous communique et à marcher sur son chemin, puisqu'on sait qu'on est en train d'avancer vers cet objectif-là. Aujourd'hui, donc, nous allons regarder ensemble l'attitude que Dieu nous demande de garder lorsqu'on est en train de marcher sur cette route avec le Seigneur. Quel style de conduite on doit avoir si on prend cette route avec le Seigneur vers cette destination que le Seigneur a prévue pour nous. Et donc, on voit dans ce passage de Philippiens 4 que ce style, cette attitude qu'on doit garder le long de la route, ce style de conduite que nous devons avoir dans notre vie, implique entre autres le contentement. J'ai pris comme titre une citation d'un autre passage de l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6. Alors, 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, Paul dit « La piété avec le contentement est un grand gain. » En fait, dans les versets précédents, si on lit les quelques versets précédents, l'apôtre Paul dénonce ceux qui considèrent la foi chrétienne et la vie chrétienne simplement comme un moyen de s'enrichir. 1 Timothée 6, verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Le seul problème parfois avec l'apôtre Paul, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce qu'il pense. Il dit « Certains croient que la foi chrétienne, c'est simplement une source de gain. » Encore de nos jours, c'est un danger qui guette l'Église, qui existe. Des gens qui croient que la foi chrétienne, ou qui considèrent la foi chrétienne simplement comme un moyen de s'enrichir. Certains, malheureusement, par des pratiques abusives, où c'est surtout eux qui s'enrichissent à travers les frères et sœurs, soit en tenant de fausses promesses que Dieu n'a jamais données, du style, je me souviens de John qui citait une fois un prédicateur qu'il avait entendu qui disait « Si vous suivez le Seigneur Jésus, chaque fois que vous mettez votre main dans votre poche, vous allez trouver de l'argent, un bon billet au fond de votre poche. » Le Seigneur n'a jamais donné ce genre de promesses. Et donc, l'apôtre Paul condamne cette attitude. Ceux qui croient que la piété est une source de gain, il dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il est vrai que Dieu a promis de prendre soin de nous. L'apôtre Paul dit à ces Philippiens qui ont donné de ce qu'ils avaient pour aider Paul dans son ministère, il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » En Matthieu chapitre 6, nous avons une promesse claire du Seigneur de prendre soin de nous, même matériellement. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Tout à l'heure, l'Esprit de Dieu a interpellé quelqu'un sur le fait d'être assuré de son amour, de ne pas douter de son amour. Je pense que le Saint-Esprit voudrait également interpeller quelqu'un ce soir par ses paroles, en disant, mais ne t'inquiète pas de ces choses matérielles. Les oiseaux n'ont même pas de compte en banque, et pourtant, je les nourris tous les jours. Les fleurs n'ont pas de travail, et pourtant, même Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas habillé aussi bien que ses fleurs. Et à chaque fois, Dieu dit, si je le fais pour les fleurs et pour les oiseaux, à combien plus forte raison je le ferai pour vous, puisque je vous aime, je vous ai sauvés, j'ai fait de vous mes enfants et mes héritiers. Donc ne vous inquiétez point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc Dieu a effectivement promis de prendre soin de nous, de pourvoir à tous nos besoins. Mais cette promesse n'est pas pour qu'on vienne au Seigneur par avarice, en disant « je vais devenir riche en venant à lui, je vais venir à Jésus comme ça ». Il est obligé de me bénir et de me donner tout ce qu'il veut, tout ce que je veux. Dieu a fait cette promesse-là dans le but de développer notre dépendance de lui. Il dit, moi, je vous donnerai tout. Moi, je prends soin de vous. Comptez sur moi. Vivez dans cette dépendance de moi. Il veut qu'on développe cette foi qui élimine l'inquiétude. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul disait à Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Il dit, même... Si vous êtes riche, si vous avez des choses, le but n'est pas de mettre votre espérance dans ces choses, de mettre votre confiance dans ces choses. Donc c'est sûr que le Seigneur ne nous appelle pas à venir à Jésus juste pour recevoir des richesses incertaines. Il dit, mais de mettre leur confiance en Dieu. Dieu dit, vous pouvez me faire confiance. Parce qu'il désire qu'on le connaisse, il désire qu'on vit dans cette dépendance de lui, et que si on ne s'inquiète pas, c'est parce qu'on a foi en lui, que lui prendra soin de nous parce qu'il nous aime. Donc, Dieu ne nous appelle pas à lui, la foi chrétienne n'est pas censée être quelque chose, un chemin, une route sur laquelle on se lance par avarice, en devenant disciple par calcul. En disant, je vais bien gagner si je viens à Christ. Il y a en fait un exemple biblique d'un disciple qui a été motivé par l'avarice, mais ce n'est pas vraiment un exemple à suivre. Il s'agit de Judas. En Jean chapitre 12, verset 4, un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On le voit également dans la faiblesse qui l'a conduit à renier Jésus et à le trahir pour 30 pièces d'argent. Donc ce n'est pas vraiment un bon exemple, l'idée de devenir disciple par calcul pour gagner. Le Seigneur nous appelle à mettre notre confiance en lui, à vivre dépendant de lui. Et donc Paul, au contraire de dire « Venez au Seigneur Jésus pour devenir riche », il dit que nous devons plutôt développer non pas l'avarice, mais le contentement en ce qui concerne les choses de ce monde. Et finalement, on pourrait dire que le contentement représente le résultat final de la foi, puisque le contentement, c'est l'inverse du raisonnement de notre chair, ce raisonnement qui nous pousse à chercher parfois désespérément à développer la foi en Dieu. Parce que depuis que le péché est entré dans le monde, la nature humaine veut toujours plus. Ecclésiaste 5, verset 10, nous dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. Si vous venez, même au Seigneur Jésus, dans le but de vous enrichir, vous allez trouver que Dieu ne vous donne jamais assez. Si vous vivez, même dans ce monde, dans le but de toujours gagner plus, vous allez trouver que vous en avez jamais assez. Même le milliardaire Rockefeller, quand on lui avait demandé combien d'argent il fallait pour être heureux, il avait répondu « un peu plus ». Donc, notre nature veut toujours plus. Et du coup, on s'inquiète de ne pas avoir assez. Si on est chrétien, donc, on cherche à développer notre foi pour combattre l'inquiétude. Après tout, le Seigneur a dit « ne vous inquiétez de rien ». Mais le contentement va même au-delà de combattre l'inquiétude. Le contentement reflète notre foi dans la promesse de Dieu. Si on est content, c'est parce qu'on sait que si Dieu a promis de nous donner tout ce dont on a besoin, ce qu'on vient de voir dans les textes bibliques est le cas, et si Dieu est fidèle à sa promesse, et la Bible le dit aussi, que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit, nous croyons que Dieu est fidèle à ses promesses. Donc si Dieu a promis de nous donner tout ce dont on a besoin, et s'il est fidèle à sa promesse, nous pouvons savoir que nous avons actuellement assez pour le moment venu, pour ce moment que nous sommes en train de vivre. Sinon, Dieu nous donnera plus, si on a besoin de plus. Parce qu'il donnera selon notre besoin. Non pas forcément selon nos désirs les plus fous, mais il a promis de prendre soin de nous et de nous donner ce dont on a besoin. On le voit par exemple dans l'histoire de Jésus avec Pierre, lorsque Pierre devait payer l'impôt au temple. Jésus lui dit même d'aller chercher dans le lac, qu'il allait trouver un poisson, et dans le poisson, il a trouvé une pièce qui couvrait l'impôt pour lui comme pour Jésus. Le moment venu, Dieu prendra soin de nous. Si plus tard, nous avons besoin de plus, on n'a pas besoin de s'inquiéter, Le contentement nous dit, les promesses de Dieu et la fidélité de Dieu nous disent, bah, Dieu nous donnera ce qu'il faut le moment venu. Et donc dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, dans Philippiens chapitre 4, Paul nous explique que lui-même, il a appris à développer cette confiance en Dieu. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, donc avec moins. Puisque donc, si j'ai moins, c'est que Dieu considère que j'ai besoin de moins, donc il m'a donné moins. Donc, je n'ai pas besoin de rouspéter, je n'ai pas besoin de dire « Ah, ben, je devrais avoir plus ». Je n'ai même pas besoin de m'inquiéter que ben, « Si je n'ai que ça aujourd'hui, comment vais-je faire demain pour mes besoins ?» Il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Parce que fondamentalement, il dit « Ça ne change rien. » C'est que Dieu a décidé ce jour-là que je pouvais m'en passer et qu'aujourd'hui, il a voulu me donner un peu plus. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il avait développé cette confiance en Dieu et dans les promesses que son Dieu lui avait données. Et donc il dit effectivement que la piété avec le contentement est un grand gain. C'est effectivement un grand gain. Ça élimine l'inquiétude. L'Ecclésiaste remarque également que même les riches, ils ne sont pas sans inquiétude parce que finalement, ils s'inquiètent de ce qui arrive à leur richesse. Donc, si on a beaucoup ou si on n'en a pas, il dit, ben, si vous vivez dans le contentement, si vous arrivez à développer ce contentement qui est basé sur la promesse et la fidélité de Dieu, ben vous avez un grand gain. Certains jours, vous aurez ce grand gain plus l'abondance. Certains jours, vous aurez ce grand gain avec l'humiliation et la disette, mais ce sera toujours un grand gain parce que vous êtes en train de vivre sans inquiétude et en plus vous êtes en train de glorifier le Seigneur, de connaître le Seigneur parce que vous mettez votre confiance en lui, vous avez appris qu'il est fidèle à ce qu'il a promis et vous vivez dans la dépendance de lui. Donc, le contentement, dit-il, est un grand gain à ces deux niveaux. Je dirais, le contentement est aussi un grand témoignage vis-à-vis du monde autour de nous. Lorsque on vit dans une société, dans un monde qui est toujours dans l'insatisfaction, qui est même prêt à payer des fortunes à des agences de publicité pour s'assurer qu'on reste dans l'insatisfaction, nous pouvons montrer un autre modèle qui dit « Ah ben, moi, je vis dans le contentement. » Et sans avoir à forcément dire ben, « Je fais vœu de pauvreté et je me débarrasse de tout pour me rendre pauvre, pour le prouver, mais simplement dans cette dépendance de Dieu. » Aujourd'hui, Dieu me donne ce qu'il considère bon pour moi et je sais que je peux lui faire confiance. Si j'ai plus, si j'ai moins, je suis tranquille, je suis content, car je sais que mon Père prend soin de moi et qu'il me donne ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Grand témoignage pour montrer la réalité de ce que ça veut dire marcher avec le Seigneur. Mais selon donc 1 Timothée 6, verset 6, ce grand gain est dû d'un côté au développement du contentement, mais aussi de la piété. C'est en effet un grand gain qu'est la piété avec le contentement. Nous sommes donc appelés en tant que chrétiens à vivre avec le Seigneur et à vivre pour le Seigneur. C'est ça, finalement, l'idée derrière ce mot « piété ». Le mot grec indique une vie vécue pour Dieu. Alors, ce n'est pas la sainteté en soi, quoique il y a un lien avec la sainteté. C'est plutôt une vie, l'extérieur de notre vie, qui est vécue pour Dieu. Le fait de faire nos choix en fonction de ce que Dieu nous dit. Une vie qui est vécue pour plaire à Dieu. Où on prend les décisions, on fait les choses qui lui plaît, où on évite de faire les choses qui ne lui plaît pas. Une vie vécue de façon à montrer que Dieu est réellement notre Seigneur. C'est ça que Paul dit quand il parle de la piété. La piété avec le contentement est un grand gain. Lorsqu'on vit pour le Seigneur et qu'on est content à cause de notre dépendance de lui, il dit nous avons un grand gain. Donc finalement la piété c'est un peu similaire à ce qu'on a vu avant les vacances sur le fait de reconnaître que Jésus est le chemin. Comme on avait vu dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin ». On avait vu, d'un côté, donc, il nous appelait à obéir à son enseignement, mais plus que cela, il nous appelait également à suivre son exemple et à le suivre lui, à marcher avec lui. La piété, donc, est similaire. On reconnaît vraiment qu'il est notre Seigneur. Donc, on obéit à ce qu'il dit parce qu'on veut le plaire, parce qu'on veut devenir comme lui, comme on a chanté tout à l'heure. Alors, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous dit que Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Souvent dans la Bible, on trouve deux vérités qui d'un côté pourrait sembler contradictoire, mais qui finalement nous permettent de voir toute la réalité. De Pierre, chapitre 1, verset 3, donc « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » On pourrait imaginer donc que tout dépend de Dieu. Dieu a tout donné pour la piété. Mais la piété nécessite aussi un engagement et des actes de notre part. 1 Timothée chapitre 4, verset 8 nous dit « Exerce-toi à la piété ». Et pour qu'on comprenne de quoi il parle, il fait une comparaison entre l'exercice à la piété et l'exercice corporel. Il dit, de la même manière que vous allez peut-être exercer votre corps, bah de la même manière, exerce-toi à la piété. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais l'exercice corporel, on ne peut pas le faire au fond de son fauteuil, sans se bouger, en disant, ah bah oui, j'ai plein de bonnes intentions, j'ai plein de bonnes pensées. Oui, je fais mes exercices au fond de mon canapé. On est obligé d'impliquer la volonté. Je décide de faire quelque chose, je décide de me bouger. Et en plus, après, je fais ce que j'ai décidé de faire. Je fais quelque chose. Donc, la Bible nous dit que Dieu nous donne tout ce qui contribue à la piété, mais avec cette connaissance-là, avec cette promesse-là, sachant donc que finalement, si vous vous décidez de suivre le Seigneur et de faire ce qu'il dit, ça ne ratera pas parce que lui, il prend soin de nous donner tout ce qui contribue à la piété. Il dit, mais toi, exerce-toi à la piété. Ça implique aussi la volonté. On ne peut pas être chrétien en disant « bon, ben, je fais rien, je change rien, et ben Dieu, miraculeusement, passera la baguette magique sur moi et je serai transformé. » Exerce-toi à la piété. À nous d'impliquer notre volonté, de dire « si Jésus est mon Seigneur, je veux faire ce qui lui plaît. Je veux faire ce qu'il m'a ordonné de faire. Je vais obéir à ses commandements. Je vais suivre son exemple. Je vais faire tout ce qu'il me dit. Et puis, le faire. » C'est ça, s'exercer à la piété. Mais Paul dit, ben, si nous avons la piété, si nous faisons cet exercice de vivre comme Dieu nous demande de le faire. Et si on vit à côté de cela, dans ce contentement qui vient du fait de savoir que nous pouvons faire confiance à Dieu de prendre soin de nous, il dit c'est une source de grand gain. Si nous développons donc cette piété avec le contentement, ben, d'un côté, nous avons déjà la certitude d'avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre dans ce monde, parce que Dieu l'a promis, sans avoir à nous inquiéter. Mais à cause de la piété, non seulement nous avons cette confiance pour cette vie, mais nous avons également la certitude des richesses éternelles. Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Jésus qui finalement fait rappel de ce commentaire de l'Ecclésiaste qui dit bah, « même les gens riches, ils vivent dans l'inquiétude. » Il dit « l'ouvrier, il peut simplement s'endormir, celui qui a ses richesses, il ne peut même pas dormir tranquille parce qu'il est toujours en train de s'inquiéter du sort de ses richesses. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et nous savons, sur les promesses de Dieu, que la piété, une vie vécue avec le Seigneur et pour le Seigneur, garantit donc des richesses éternelles. On l'avait lu en 1 Timothée 6, verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. » En plus, donc, nous vivons dans la paix qui découle de cela. La paix qui découle de ces certitudes, de savoir que Dieu prendra soin de nous chaque jour de notre vie ici sur terre et que Dieu nous a garanti des richesses éternelles qui découlent de notre vie avec lui. Donc nous sommes en paix pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Et surtout, le plus important, Dieu sera glorifié. Parce que notre vie va proclamer quel Dieu il est, comment il est, à quel point il est digne de notre confiance et de notre louange et de notre reconnaissance. Donc, que nous puissions vraiment prendre à cœur ces paroles de l'apôtre Paul, réjouissons-nous dans le Seigneur. Ne nous inquiétons de rien, faisons confiance au Seigneur, sachant que la piété avec le contentement est vraiment un grand gain.